Si on parlait d'intelligence ce matin, et surtout croyez pas qu'il s'agit de prendre de la hauteur par rapport à l'actualité, déjà parce que c'est pas mon genre, mais parce que c'est pas ça, l'intelligence. Dire que c'est prendre de la hauteur ou un peu de hauteur, vous savez, c'est même un contresens. Et ça conduit d'ailleurs à la division, au mépris. Vous savez, il y aurait ceux qui en font preuve d'intelligence, et puis les autres, les cons, que l'on juge forcément à l'aune de sa propre intelligence, c'est vous dire l'arrogance. Non, l'intelligence à l'origine, c'est l'art de faire des liens, interligare, en latin, créer du lien, des connexions, des rapprochements entre des idées, mais aussi entre des gens. C'est donc à l'opposé de la prise de hauteur. C'est la possibilité qui nous est donnée, au contraire, de rassembler. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la façon dont chacun tente, au contraire, de se distinguer de son collègue, parent, ami, de son lecteur ou follower, du voisin comme de l'étranger. Ce qui revient à faire preuve, non pas d'intelligence, mais de violence, parce que en se distinguant, on tente toujours d'imposer sa personne, son savoir, sa domination sur l'autre. Non, l'intelligence, dont la science nous dit qu'elle est la capacité qu'on a à s'adapter à un environnement, un milieu, une société, ça passe par le lien. Et s'il s'agit de s'en sortir aujourd'hui, ça ne se fera pas par le haut, mais d'égal à égal.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Sur quoi repose l'intelligence de mon invité d'aujourd'hui? Tiens, il est romancier et Deux Sœurs, son nouveau roman publié aux éditions Gallimard, sort jeudi. L'histoire d'une jeune femme qui peine à se relever du départ de son compagnon et qui va progressivement se révéler sous un nouveau jour. Il nous en parle en avant-première. Bonjour David Fuenquinos.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Sur quoi ça repose l'intelligence pour vous dans la vie, hein?
Bah, ça me touche beaucoup quand vous parlez de lien et d'humain finalement, parce que pour moi l'intelligence c'est davantage lié à l'émotion, l'intelligence émotionnelle, les rapports humains, que au savoir ou à la culture ou à l'excès d'informations.
Mais je sais que c'est une question qui vous interroge, je sais que vous êtes passionné par exemple par l'intelligence artificielle. Où est-ce que vous trouvez de l'émotion dans l'intelligence artificielle?
Oui, ça me passionne parce que j'ai l'impression que voilà, on est dans un basculement, dans une mutation tellement importante, et j'en parle un tout petit peu dans mon livre avec un personnage voilà qui lit beaucoup les propos du docteur Laurent Alexandre, et c'est vrai que ça m'a beaucoup fasciné parce que on arrive dans une mutation qui va changer vraiment la donne avec cette intelligence artificielle, et il met en garde par rapport à tout ce qui va se passer, et justement en garde par rapport aux conséquences humaines. Et il dit quelque chose de très important, que finalement les emplois peu qualifiés, les gens les plus fragiles vont pâtir profondément de cette mutation. Et il dit que c'est vraiment à un moment où les politiques doivent se rendre compte que le plus important c'est de mettre l'accent sur l'éducation nationale. On n'a plus que jamais, à cause de cette mutation technologique qui arrive, on n'a plus que jamais besoin de la formation, des professeurs, de l'éducation nationale.
Ce sont aussi les thèses de Yuval Noah Harari qu'on avait reçues.
Exactement,
dans
exactement.
Cette émission,
ils sont très très proches
à ce micro. L'intelligence artificielle, quelle question est-ce qu'elle pose au romancier que vous êtes? Est-ce que ce serait possible pour vous d'envisager un personnage, par exemple, qui soit dénué de chair, un personnage dématérialisé, sans corps, David Fuenquinos?
Alors, je crois que les romanciers sont à l'abri de tout ça. vous savez qu'il y a aussi des histoires de romans qui s'écrivent artificiellement, des traductions qui soit artificielle, enfin par l'intelligence artificielle. Je crois qu'on est très très loin de ça.
Ça pourrait être intéressant, un personnage.
Oui, mais il y a quelque chose de fascinant dans le roman, par exemple. Moi, je suis obsédé par l'écriture romanesque. C'est je pense qu'on n'arrivera jamais à bout des histoires, de la façon de raconter, et parce qu'il y a cette intimité, il y a ce vécu qui finalement s'infiltre dans toutes les histoires. Et donc moi je sais que quand j'écris des personnages, je suis pas forcément obsédé par leur incarnation, mais plus par leur émotion, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils traversent psychologiquement.
Et comment ils arrivent?
Cette finesse là elle est vraiment possible dans le roman.
Comment ils vous viennent, ces personnages? Comment ils arrivent?
Ça, c'est la chose la plus improbable qui puisse être, parce que c'est vrai que j'ai écrit déjà quelques romans et à chaque fois c'est différent. Et l'apparition de mes personnages, c'est toujours une aventure différente. Parfois, je les rencontre physiquement, je les ressens, et puis d'autres fois, ce sont davantage des sensations. Là, pour mon dernier roman, c'est vrai que Mathilde, c'est plutôt la sensation de sa souffrance que j'ai ressentie instinctivement.
Ce niveau d'empathie, David Fuenquinos, c'est très inquiétant. Vous êtes en train de nous dire, vous avez des relations presque sensuelles.
Oui,
presque
mais alors,
physiques,
c'est pas comme les acteurs, c'est-à-dire que je vais pas perdre mon âme, je travaille avec les acteurs et je vois ce que c'est d'intégrer vraiment physiquement un rôle. Moi, j'arrive à faire des allers-retours, c'est comme ouvrir une porte, aller dans la porte finalement de la chambre de mon imagination, être en empathie totale, parce qu'on peut pas écrire si on vit pas avec ces personnages, si on les ressent pas, si on les comprend pas d'une manière organique, si j'ose dire. Et en même temps, j'arrive tout à fait à avoir des respirations de ça. C'est ce qui me maintient, en tout cas qui me permet de ne pas sombrer dans la folie. Quoi.
Vous parliez de l'intrusion de l'intelligence artificielle, effectivement, dans Deux Sœurs. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est la façon dont ça contribue à inscrire votre roman dans le contemporain, dans une époque de réseaux, de toiles, de téléphones portables. S'inscrire dans son époque, est-ce que c'est un enjeu pour vous en tant que romancier ?
Alors, c'est pas vraiment un enjeu. C'est très important pour moi, quand on écrit de la fiction, quand on invente des personnages, des histoires qui sont pas intimes, pas autobiographiques, j'ai besoin d'avoir un cadre réel. J'ai besoin de mettre des touches qui finalement nous associent aux contemporains. Ça incarne en fait les choses. Je crois qu'on peut aller très très loin dans l'expression des sentiments, et c'est vrai que le livre va très très loin dans ce que va vivre cette femme-là, mais pour accepter ça, je pense pour la suivre dans cette dérive-là, j'ai besoin d'un décor réel.
Mais alors quel décor, quel contemporain est-ce que vous décrivez justement, quelle époque en réalité ?
Mais j'adore aller professeur, c'est très important pour moi. Je vais très souvent dans les lycées depuis que j'ai eu le concours des lycéens avec Charlotte, et c'est vrai que l'environnement professionnel, par exemple, j'essaie de le décrire avec le plus de justesse possible. La façon dont finalement elle a son rapport aux autres, à l'amitié, aux voisins, à un moment donné voir une psychiatre, enfin tout ce qui a finalement ce qui était important, enfin l'enjeu de ce livre, c'était d'avoir quelqu'un qui s'effrite, mais tout l'environnement reste extrêmement solide finalement.
Une époque, j'ai l'impression, David Foenkinos, qui nous renvoie de plus en plus à notre solitude, malgré tous les objets numériques, hein, dont l'une des finalités était de nous rapprocher.
Oui, mais la rupture amoureuse ou la souffrance, elle n'est pas liée à l'actualité. Quoi qu'il arrive, elle nous propulse dans une solitude absolue.
Elle peut être liée au contemporain.
Oui, au contemporain, mais c'est vrai que c'est pas parce que elle a la possibilité d'échanger, de vivre dans notre société actuelle. Elle se ferme du monde, et d'ailleurs, les gens tournent autour d'elle, essayent de l'aider, notamment sa sœur, mais elle est dans un degré de souffrance qui fait que personne finalement ne peut accéder ou ne peut l'aider.
Pendant la pause déjeuner, elle alluma son téléphone. Elle avait fait exprès de ne pas le consulter pendant les interclasses pour se laisser plus de chances d'avoir un message. Elle attendit un peu. Parfois, ça ne captait pas très bien dans l'établissement, mais rien ne se produisit. Ce vide sur son écran la violenta profondément. Note, une souffrance moderne. Qu'est-ce que c'est, David Foenkinos, une souffrance moderne, cette expression qui ne figure pas dans le corps de votre texte, mais sous forme de note de bas de page, comme un commentaire?
C'est la souffrance moderne liée à la technologie qui est complètement démente, quoi. Puisque finalement, la problématique, c'est qu'avec les téléphones, nous sommes tout le temps potentiellement reliés les uns aux autres.
Oui.
Donc quand on n'a pas de manifestation de ce lien, on le traduit par un rejet, par une absence. Et donc finalement, elle matérialise quand elle reçoit pas de message de l'homme qu'elle aime, et juste avant qu'il décide de la quitter, elle ressent physiquement cette absence.
Mais
c'est comme si maintenant on est dans une époque où finalement l'absence a une chair.
Mais avant les téléphones portables, comment est-ce qu'on souffrait? Comment est-ce qu'un personnage de fiction souffrait, David?
Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas écrit de roman finalement avant mes premiers romans, peut-être. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver quoi qu'il arrive, peu importe l'époque. Je veux dire, si on lit les romans du 19e siècle, c'est certain que la souffrance, aussi bien chez Anna Karenine ou Emma Bovary, on n'a pas besoin de téléphone portable pour la ressentir.
Parce que c'est bien, effectivement, l'histoire d'une jeune femme qui souffre, que vous nous racontez dans Deux Sœurs, une jeune femme qui semble avoir tout pour elle et qui, du jour au lendemain, est quittée par son compagnon. Elle finit par retourner vivre chez sa sœur. Et il se trouve qu'elle est professeure de français, vous l'avez dit, et qu'elle enseigne à ses élèves l'éducation sentimentale de Flaubert. J'imagine que ça, c'est pas innocent.
Non, c'est pas innocent. D'abord, c'est un lien avec ma propre vie, puisque j'avais fait un mémoire, moi, sur Flaubert. Pas sur l'éducation sentimentale, mais sur la tentation de Saint-Antoine. Ce qui est très important pour moi, c'était de voir quelqu'un qui, finalement, perd sa raison de vivre, en étant quitté par l'être qu'elle aimait, avec qui elle allait se marier, avec qui elle pensait faire des enfants. Donc, il y a une forme, d'obsession de cette postérité assassinée. Et en même temps, elle est extrêmement précise dans la compréhension de la psychologie amoureuse des personnages chez Flaubert. Donc elle est capable de comprendre finalement parfaitement les romans, mais pas la vie. Et il y a quelque chose qui ne l'aide pas dans la compréhension du monde par l'écriture, par la lecture de romans. Et à un moment donné, elle se dit qu'elle serait bien plus heureuse en vivant dans un roman, puisque là, elle a les codes grâce à l'étude permanente de cette passion amoureuse.
En même temps, chez Flaubert, il y a une ironie dévastatrice, ne serait-ce que dans le titre « L'éducation sentimentale ». Dans quelle mesure les romans de David Foenkinos font-ils notre éducation sentimentale?
Ah, ça, c'est, j'ai envie de dire aucun moment. Si vous avez besoin de moi pour vous éduquer sentimentalement, laissez tout de suite tomber, quoi. Non, je crois que, enfin, il me semble que chaque expérience finalement romanesque. Et c'est vrai que quand j'ai publié La Délicatesse, qui était l'histoire de cette d'une femme qui perdait son mari, d'une veuve, j'ai reçu énormément de lettres à cette époque de femmes qui avaient vécu ça. Mais ce qui moi me, comment dire, enfin, je suis toujours touché qu'on puisse se reconnaître ou comprendre le monde ou ce qu'on ressent à travers la lecture d'un roman. Ça m'arrive aussi évidemment en tant que lecteur, mais moi, ce qui je suis obsédé par l'intimité de mon personnage. Je ne cherche pas à exprimer des généralités, jamais.
Mais d'où vous vient cette idée que l'art nous sauve? Parce que ça revient toujours chez
ça
vous.
C'est extrêmement personnel. C'est le slogan absolu de ma vie, puisque moi, j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai passé des mois à l'hôpital. J'étais pas du tout issu, moi, d'un milieu culturel, et l'art m'a profondément sauvé. Je me suis mis à lire, à écrire, les mots m'ont accompagné, la beauté des phrases. Et évidemment, après, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai aimé la vie d'une manière double. J'ai aimé la musique, j'ai aimé la peinture, toute la vie sensuelle, toute la vie finalement émotionnelle.
Faire l'expérience de la beauté, David Fuenquino, ça correspond à quoi? À quel état? À quelles émotions?
Pour moi, ce que j'appelle la beauté, c'est finalement une façon de rendre la vie dense et intense. C'est tout ça. Peu importe. Il n'y a pas de définition de la beauté. Chacun possède sa propre définition à la beauté. Mais en tout cas, c'est une façon de ressentir peut-être d'une manière plus physique les sensations, ou quelque chose qui fait qu'on ressent la densité des jours.
Et alors, la première fois que vous avez ressenti, que vous faisiez l'expérience de la beauté, c'était quand? C'était face à quelle œuvre?
Ça a été une sorte d'avalanche, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, le jazz. J'ai fait des études de jazz. J'ai commencé à aussi écouter beaucoup de musique classique. Je me souviens du Requiem de Mozart. C'est vrai que quand on est à l'hôpital, au bord de la mort, écouter le Requiem de Mozart, c'est un tout petit peu morbide. Et pourtant, paradoxalement, j'en ai un souvenir de quelque chose qui m'a envahi totalement, d'une manière presque religieuse. Et puis après, les livres. Alors, ça a été beaucoup la littérature russe. Je suis parti après, d'ailleurs, voir la maison Dostoïevski à Saint-Pétersbourg, Albert Cohen, Romain Gary. À ce moment-là, beaucoup d'auteurs finalement sont entrés dans ma vie d'une manière presque, je sais pas, comme tout le monde qui voudrait s'incruster à une même soirée, quoi. Ça a été vraiment... je peux pas citer finalement un exemple d'une œuvre qui a été... Ça a été le début d'une boulimie qui ne s'est jamais arrêtée.
Une belle boulimie, celle qui est pas belle dans cette émission. Vous la connaissez certainement, David, c'est la culture et son actualité qui, bien que très ingrate, ne parvient même pas à être touchante, tant elle est méchante. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 18 février?
Intellectuels, chercheurs, experts doivent-ils faire entendre leur voix dans le grand débat national?
Le petit doigt sur la culture, Beaux-Arts Magazine et la Fondation du Patrimoine lancent aujourd'hui une plateforme participative consacrée à la culture. Ils appellent les Français à laisser leurs idées et commentaires sur le site granddebatculture.fr sur des sujets aussi divers que l'éducation artistique, l'avenir du patrimoine ou la rémunération des artistes. À terme, les propositions les plus innovantes et les plus soutenues seront compilées dans un rapport remis à Emmanuel Macron et au ministre de la Culture, Franck Riester, en avril. On compte sur vous, comme disait l'autre. Rémi pour la vie, le producteur d'Amy Winehouse, Salam Rémi, vient de révéler Find My Love, un duo inédit réunissant la diva soul disparue en 2011 et le rappeur new-yorkais Nas. C'est à partir d'archives d'enregistrements en studio avec Amy Winehouse, accolées à des rimes toutes neuves du rappeur, que Salam Rémi a composé ce montage soigné qui donne l'impression d'un vrai duo et qui fait revivre la chanteuse le temps d'une balade élégante et posée. On fait tourner.
Alors j'aimerais bien marquer un grand coup et faire une conférence de presse au niveau national.
Mais avant ça, il faut réunir des témoignages, trouver d'autres victimes. Plus on sera nombreux et plus ça aura de poids.
Grâce à Dieu, face aux juges, le nouveau long-métrage de François Ozon, récompensé de l'Ours d'Argent ce week-end à Berlin, passe aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Paris. La justice doit statuer sur l'éventuelle sortie du film, prévue mercredi. Chronique de l'affaire Prena, scandale de pédophilie qui implique l'archevêché de Lyon, raconté avec les vrais noms des personnes impliquées. Le film risque de voir sa sortie reportée. Réponse cet après-midi. Et puis Flash spécial, beatmaker de légende et pionnier du hip-hop, le DJ new-yorkais Grandmaster Flash a reçu le Polar Music Prize, considéré comme le Nobel de la musique. Premier artiste de la culture hip-hop à recevoir cette distinction, Joseph Sadler, de son vrai nom 61 ans, succède ainsi à des musiciens comme Dylan, Sting ou les Pink Floyd en 1982 avec le tube The Message. Grandmaster Flash fut le premier à introduire un discours poétiquement et socialement engagé dans le rap. Big up! Et David Fuentinos, invité de Boomerang ce matin pour son roman « Deux sœurs » en librairie jeudi. Un roman où vous avez à cœur, dès la première phrase, et c'est intéressant, de mettre en scène l'histoire et de réfléchir sur l'histoire que vous êtes en train d'écrire. Qu'est-ce qui, pour vous, constitue le point de départ d'une histoire ?
Le point de départ, là, dans ce roman, est extrêmement simple. C'est vraiment... j'avais envie vraiment d'aller très très loin dans l'évocation de la souffrance amoureuse, de la rupture, et finalement jusqu'où pouvait mener cette folie de ne pas pouvoir subsister à cette séparation. Et c'est vrai que c'est ce qui m'excitait, de voir jusqu'où ce basculement irait.
Ça vous arrive de faire des faux départs, David?
Ça m'arrive tout le temps.
Partir dans une mauvaise direction.
Un roman est rarement porté par une impulsion totale, évidente, comme une autoroute. J'ai toujours l'impression de parfois aller dans des impasses. C'est très très compliqué. Et il y a quelque chose d'assez lumineux, à un moment donné, de trouver la voie. Surtout que ce roman est vraiment constitué de deux parties assez distinctes, puisque dans la seconde partie, elle va aller vivre chez sa sœur, où elle va... Mais vous me faites un signe
de pas tout dire.
Non, évidemment, je vais pas raconter ce qui va se passer. Mais c'est vrai que, c'est-à-dire que je vous parle de ça, c'est-à-dire que parfois l'écriture de romans, c'est comme une ligne de métro. On a certaines stations. C'est-à-dire que je peux avoir un faux départ, mais je sais où je vais. Ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui m'obsède, c'est de savoir quel chemin que je vais prendre.
Comment est-ce que ça s'apprend d'écrire des histoires, en fait, en lisant surtout?
Je crois que ça, j'ai pas l'impression que ça puisse s'apprendre. J'ai le sentiment que moi, j'ai commencé à écrire et puis que les choses sont finalement arrivées d'une manière un peu improbable, progressivement, en travaillant tout le temps, en étant animé d'une manière obsessionnelle par l'écriture de romans.
Mais c'est vrai que la littérature est extrêmement présente chez vous. L'amour de la littérature, on la retrouve en filigrane dans tous vos romans. Quel lieu de transmission littéraire est-ce que l'école a pu être pour vous?
L'école, assez tardivement, au moment de la seconde, de la première, a été très très importante, justement, liée un peu aussi à mon opération.
Il y a eu des professeurs.
Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, j'ai commencé à être... Les professeurs étaient très très bons, mais il y a aussi... c'est un échange. C'est-à-dire que j'ai commencé à être plus sensible aussi à ce qu'ils disaient, notamment les professeurs de français. Et donc, ça a été très important. Mes professeurs de seconde, première et terminale aussi pour la philosophie, vraiment ont marqué mon éveil, mon goût de la littérature, et après m'ont donné l'envie d'aller faire des études de lettres. Mais c'est ça aussi, j'ai eu des professeurs aussi extraordinaires à la Sorbonne.
Vous dites qu'avant votre accident, à 16 ans, David Fuentinos, vous lisiez que très peu. Quelle place avaient les livres chez vous, chez vos parents?
Pratiquement aucune, mais pas que la littérature. On allait très peu voir des expositions, très peu voir de films. Pour le cinéma, mon frère a été très important. Il était plus âgé, et donc il avait 6 ans de plus. Et il a commencé à vraiment enregistrer tous les films qui passaient à la télévision.
Stéphane Fuentinos,
voilà,
avec
Stéphane,
qui vous réalisez
des
films.
Oui, tout à fait. L'année dernière, on avait réalisé Jalouse avec Karine Viard. Donc ça a été un début. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que tout ça est né d'une manière totalement autonome. C'est-à-dire que quand j'étais à l'hôpital, on était en 1991, pour revenir tout à l'heure aux réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Donc cette solitude-là a été comblée par les livres.
Et l'amour des livres, c'est quelque chose que vous êtes parvenu à leur transmettre, à vos parents, par la suite, par le biais de vos livres, David ?
C'est une question intéressante. Comme si la transmission pouvait se faire dans les deux sens.
Ah oui.
J'ai le sentiment que la vie culturelle, puisque celle que nous vivons, mon frère et moi, influe forcément sur l'entourage proche.
Donc c'est ça.
Je sais pas si c'est une transmission, mais c'est magnifique de pouvoir partager aussi. C'est toujours de toute façon très important d'avoir plusieurs vies, d'avoir plusieurs époques, d'avoir finalement, on découvre aussi des choses ensemble.
Mais c'est vrai qu'on en revient toujours avec vous à la question de la transmission qui était absolument centrale dans Charlotte, ce livre sur la peintre allemande Charlotte Salomon, que vous avez contribué d'ailleurs à faire redécouvrir. Il vous a toujours animé ce désir de transmettre, vous ?
Pour moi, c'est la position finalement la plus importante. Le sentiment de pouvoir accompagner ses passions et les transmettre.
J'ai l'impression que Charlotte a été un catalyseur.
Oui, alors ça, en tout cas, Charlotte, c'est sûrement le livre le plus important à mes yeux, ou ce que j'ai vécu de plus important, parce que j'étais totalement animé par l'admiration et la passion pour cette artiste allemande qui était de plus en plus oubliée. Et c'est vrai que la publication de mon livre était animée par un désir complètement fou de charlottiser tout le monde et de vouloir faire en sorte que au-delà de l'appréciation de mon livre, que les gens qui allaient lire ce livre allaient découvrir cette femme, non seulement ce génie de la peinture, mais aussi un exemple très très important de courage. Ça a été magnifique pour moi d'avoir notamment le prix Goncourt des lycéens, parce que maintenant le livre est beaucoup lu à l'école, il est étudié parfois pour les concours, et c'est vrai que au-delà de mon livre, elle est très très importante. C'est quelqu'un qui va chercher au plus profond d'elle-même la beauté, l'intelligence, la culture, alors qu'elle est au bord de la souffrance et du ravage intérieur.
J'ai l'impression que ça vous bouleverse toujours autant.
Ça me bouleversera toujours. Moi, elle fait toujours partie de ma vie. J'ai toujours autant d'admiration. Je suis le président de la secte Charlotte Salomon. Dès qu'il y a des expositions, la prochaine, ça sera à Lisbonne. Et tous les projets autour de Charlotte, là, il y a un projet de film, évidemment. Je suis tout ça avec grand intérêt.
Cette extrême sensibilité que vous avez, qui fait partie de vous, David Fuenquino, ça a toujours été là?
J'ai le sentiment qu'elle se développe avec l'écriture romanesque, puisque on va chercher, comme les acteurs dont on ressent leur fragilité finalement, surtout quand ils tournent, j'ai le sentiment que aller au plus proche de ce que peut ressentir un personnage, parce qu'on peut pas écrire d'une manière anesthésiée, si j'ose dire. Donc ça développe. Ça accentue la sensibilité. Dans mon dernier roman, je ressens, c'est au-delà de l'empathie. Je ressens vraiment, non seulement dans la première partie de mon roman, la souffrance de cette femme, et puis après sa hargne, sa colère, et j'arrive, je vais pas dire que j'arrive à justifier ce qu'elle va faire dans le livre, mais en tout cas j'arrive à comprendre finalement les actes de son raisonnement. Je suis un peu le Dupont-Moretti de mes personnages.
Mais il est arrivé que ça vous pèse quand même, cette sensibilité, d'être bouleversé comme ça?
Énormément, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de Charlotte, j'ai mis 8 ans à l'écrire parce que ça me pesait, parce que c'était tout à fait insoutenable de traverser une vie de souffrance, même si son œuvre est lumineuse, pleine d'intelligence, d'humour, de fantaisie. J'étais parfois écrasé par la fêlure et la violence de sa vie. Donc, bien sûr qu'on prend les choses totalement... j'allais dire à cœur, c'est beaucoup plus que le cœur, c'est le corps et l'entièreté de l'âme.
Qu'est-ce qui vous fait pleurer immanquablement, David Fuenquinos?
Ce qui me fait, enfin, je sais, c'est une question. J'ai le sentiment que parfois j'ai un rapport aussi bien, comment dire, aux larmes qu'au bonheur, qui peut être extrêmement, assez mystérieux. C'est-à-dire que c'est un mélange d'anticipation des choses, de nostalgie, de mélancolie. J'ai l'impression que quand on est propulsé vers des émotions un peu intenses, c'est que on s'extirpe du quotidien pour englober une... Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas,
vous allez l'être.
J'essaie de définir,
définir
la définition des larmes.
France Gall, surtout quand elle chantait « Si maman si » en 1977. Je sais que c'est votre dada, Michel Berger, France Gall. Vous êtes sur France Inter avec David Fuenquinos, vous écoutez Boomerang. Vous avez même le droit de pleurer, si vous en avez envie.
Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si. Si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Passer le vent, mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos et je m'endors doucement, sans chaos ni fou.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est intéressant parce qu'on est quelque part entre Monsieur Seguin, la chèvre et le philosophe grec. C'est assez rare. Il est bouclé comme un chevreau, la barbiche bien faite, le profil aquilin, l'œil curieux derrière ses lunettes rectangulaires. C'est le bon copain, vous savez, celui qu'on appelle pour lui confier ses peines de cœur ou ses maux de ventre, qui saura toujours trouver le mot qu'il faut pour vous réconforter. Celui devant qui vous n'avez jamais peur de verser une larme et qui saura toujours vous tendre un mouchoir au bon moment. Celui enfin qui n'osera jamais vous dire de lui lâcher la grappe et qui vous laisse squatter son canapé jusqu'à en perdre la santé. Bon et sacrifice avec son petit col roulé. Ce matin, le romancier David Fuentinos, invité de Boomerang ce matin pour Deux Sœurs en librairie jeudi, une histoire dont vous nous dites, dès les premières lignes, en fait, qu'elle a quelque chose d'une tragédie. Pour autant, vous vous autorisez, David, par petites touches, certains pas de côté, vers l'humour, vers l'ironique, sans cesse. Quelle est pour vous la fonction de l'humour, justement ?
J'ai le sentiment que c'est la présence de l'auteur d'une certaine manière. J'ai l'impression que j'aime bien raconter de la fiction, qu'on soit embarqué dans une histoire avec des personnages, mais j'ai besoin finalement que le lecteur sente ma présence. Donc l'humour, c'est une façon d'avoir un regard ironique ou des petites touches en permanence, y compris dans le drame, sur une forme de connivence.
Et quand est-ce que vous avez compris que l'humour et la littérature étaient compatibles ?
En fait, d'entrée, parce que mes premiers livres... que je vous déconseille, hein, plus ou moins, parce que je veux dire, sont portés par l'humour, la folie, le burlesque.
Vous l'ironiez un peu.
Non, je l'ironie pas, je me sens moins proche de ces livres-là. Progressivement.
Ces livres très loufoques.
Oui, voilà. Moi, j'étais vraiment animé.
Qui se souvient de David Fuentinos.
Oui, ou même avant.
Le potentiel érotique de ma femme.
J'étais animé par le désir vraiment d'être dans l'humour, la légèreté, et c'est très important pour moi. J'ai une admiration sans bande pour les gens qui me font rire. Et il n'y a pas d'hierarchie pour moi. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui me font rire. Et progressivement, mes livres sont devenus de plus en plus réalistes et ont commencé à finalement à s'attaquer à une forme de réalité, de gravité, donc par moments, et notamment ce dernier livre qui est plus tragique, en tout cas qui évoque le destin de Mathilde, c'est vrai qu'il est assez sombre, hein, qui va assez loin d'ailleurs, on peut le dire.
David, mais, on a dit qu'on parlait pas de la fin.
Ce qui va se passer, mais ça n'empêche pas que pour moi... j'adore pouvoir faire des allers-retours entre la légèreté, la superficialité et la gravité.
Vous nous avez fait un cadeau ce matin.
J'espère que c'est un cadeau.
Ah oui, vous avez écrit un texte.
Un texte.
Un court texte.
Pour vous et vos auditeurs.
Oui, une carte blanche, comme on appelle ça, dans Boomerang. Et j'aimerais que vous nous la lisiez. Si
avec
vous
plaisir.
Bien.
Ma carte blanche, je voudrais justement la consacrer à tout ce qui est blanc, ou même invisible. Tout ce qu'on ne voit pas et que l'on ressent. Je n'ai pas spécialement envie de passer pour un excité du paranormal, et encore moins vous sortir une boule de cristal, mon cher Augustin. Je me sens davantage proche du François Mitterrand de sa dernière allocution télévisuelle quand il a évoqué qu'il continuerait à être avec nous, car il croyait en les forces de l'esprit. Les forces de l'esprit, comme cette formule m'a marqué. Ce sentiment qu'un esprit survit aux gestes, aux paroles, à l'incarnation terrestre. Nous nous polluons si souvent d'un rien en comparaison de cette force-là. François Mitterrand nous offre un sourire sur l'avenir alors qu'il est au crépuscule de sa vie. Cela me parle. La mort que j'ai frôlée à mon adolescence m'a propulsé dans une sorte de mysticisme poussé. Depuis, je n'ai cessé de guetter les signes partout où je passe. Quand j'écris sur Charlotte Salomon, j'avais l'impression de pouvoir la rencontrer en allant sur ses traces. Je crois profondément en la mémoire des murs et même que les paysages peuvent nous raconter ce qu'ils ont vu. Nous avons parfois le sentiment de connaître ce que nous découvrons. Ces étrangetés, on les retrouve dans les livres de Modiano. Dans Livret de famille, il a écrit « J'avais 20 ans et ma mémoire précédait ma naissance. » Ma mémoire précédait ma naissance. Toute son œuvre est hantée par ce passé qu'il a le sentiment d'avoir connu. Les forces de l'esprit sont aussi celles du passé. Et finalement, les époques se tiennent la main dans une temporalité homogène. Walter Benjamin l'a évoqué ainsi. Il existe un lien tacite entre les générations passées et la nôtre. Et il ajoute « Nous avons été attendus sur la terre ». Voilà, cela donne sûrement une densité au jour, celle de croire à la beauté que nous faisons partie d'un mouvement non soumis à la versatilité de nos secondes. Bon, je vois, Augustin, que vous auriez préféré que je vous sorte une petite boule de cristal, mais ne vous inquiétez pas, je vois, je le sais, votre avenir est radieux.
Et le vôtre,
ça vous fait du bien ou pas de savoir ça ?
Ça me fait du bien, mais j'ai surtout envie de connaître le vôtre d'avenir. Il est radieux aussi.
J'espère. Bah, en tout cas, je suis très heureux de ce qu'ils annoncent là. La sortie d'un livre, c'est toujours quelque chose d'important parce qu'on vit pendant des mois et des mois dans cette forme d'intimité.
Vous l'avez lu en faisant votre propre thème astral, celui-là ou pas?
C'est une très bonne date de sortie. 21 février, oui, j'ai fait la numérologie, c'est une très bonne date de sortie.
Merci infiniment, David Fuenkinos, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Deux Sœurs, votre nouveau roman sort jeudi, qu'il est publié aux éditions Gallimard. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, juste après ça. The Raconteurs sur France Inter, comme j'aime ce titre et ce groupe, Now That You're Gone. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M. Vous
m'entendez,
Sonia?
Moi aussi, j'aime ce titre.
Ah ouais.